Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le temps n'est plus aux explications. Les forces de l'ordre sont passées aux verbalisations. Petit à petit, la France se confine. Les habitudes sont dures à prendre. Et pourtant, l'épidémie, elle cavale, faisant maintenant plus de victimes en Europe qu'en Chine. Le gouvernement va faire voter l'état d'urgence sanitaire demain pour donner un cadre légal à ces mesures d'exception. Gérer la crise et faire face à une charge inattendue, celle de l'ex-ministre de la Santé, qui affirme qu'elle avait alerté l'exécutif sur les dangers de l'épidémie et les risques liés à l'organisation d'un premier tour des municipales. Hier soir, le Premier ministre a confirmé, c'est justifié. L'opposition s'indigne, mais le temps n'est pas à la polémique. Alors les Français ont-ils finalement accepté de rester chez eux? La déclaration d'Agnès Buzyn fragilise-t-elle la stratégie du gouvernement? Y a-t-il des exemples à suivre à l'étranger? La France se confine, Buzyn jette le trouble, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Carol, vous êtes politologue, directeur du Centre d'analyse et d'études, le CETAN. Citons votre dernier livre, Le Président sur la corde raide, publié chez Calman Lévy. Nathalie Saint-Tric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Avec nous en duplex aujourd'hui, Mélanie Gomez, vous êtes journaliste santé à Europe 1. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et je rappelle votre dernier livre, L'archipel français, aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Roland Carol, avec un sondage. Selon un sondage Elabe, 93% des Français approuvent le confinement. Et pourtant, on le voit bien, elles sont difficiles à prendre. Les habitudes aujourd'hui se posent la question, par exemple, d'interdire les marchés, parce que les Français se sont rendus sur les marchés pour conformément à leurs habitudes.
Et oui, et que sur les marchés, on ne respecte pas les distances. Et c'est ça le problème. Aller sur le marché, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est difficile devant un étal de pas se bousculer un peu, d'approcher. C'est vrai quand même que les Français ont vraiment, je crois, intérioriser fortement l'état de la crise. Depuis la dernière intervention du président de la République, déjà on voit que le jeudi d'avant, il avait parlé très écouté et ça avait changé. Y compris même, assez bizarrement, ça avait accru l'anxiété déclarée par les gens. Comme si vraiment, il avait fallu que le président parle pour qu'on croie que c'était si grave. Et la dernière intervention, c'est encore plus vrai. 35 millions de Français devant leur petit écran, sur toutes les chaînes. Un président qui déclare la guerre et qui le dit 6 fois pour qu'on ait bien compris. Là, je crois que les Français sont dans le coup. Ils savent que c'est la seule solution. Il n'y a plus de polémique sur ce qu'on aurait pu faire avant, ce qu'on aurait pu faire plus vite. Tout le monde a compris qu'on en était là. Cela dit, c'est très dur. C'est très dur pour des gens qui ont des habitudes de toujours, l'habitude de vie simplement dans une société. C'est très dur, mais moi je suis très frappé par le fait que pour l'ensemble ça semble marcher. J'ai dû venir ici en voiture pour vous rejoindre. De chez moi, j'ai rencontré pratiquement personne dans les rues, juste 2 contrôles de police. Voilà, on a le sentiment que c'est tout de même, dans l'ensemble, plutôt bien respecté.
Jérôme Fourquet, qui est avec nous ce soir, un autre sondage, 81% des Français sont inquiets. C'est un chiffre qui est en hausse de 20 points en 4 jours. Si l'objectif du chef de l'État et du Premier ministre, qui a pris la parole hier soir sur France 2, était d'une certaine forme une prise de conscience des Français de la gravité de la situation, il a réussi son coup, ils ont réussi leur coup.
Oui, effectivement, comme disait Roland Carol, on a bien vu dans les enquêtes d'opinion le niveau d'inquiétude progressait très sensiblement au fur et à mesure que la communication gouvernementale et présidentielle montait en intensité pour obtenir l'adhésion des Français à des mesures qui sont assez draconiennes. Il fallait sans doute ce préalable, c'est-à-dire celui de la prise de conscience. Ce n'était pas facile à obtenir parce qu'on se souvient d'une communication un peu brouillée en fin de semaine dernière quand on a annoncé la fermeture des écoles mais la tenue du premier tour des élections municipales. Et donc, à la fin de cette séquence du week-end, quand le président de la République a repris la parole, là, nous sommes montés manifestement d'un cran dans la prise de conscience. Alors, à côté de cet effet de la communication gouvernementale et présidentielle, il y a aussi la réalité sans doute sur le terrain, celle qui est donnée à voir par les médias sur la situation française, avec le nombre de personnes infectées qui augmente de manière très spectaculaire, les reportages qui sont faits aussi sur ce qui se passe dans les hôpitaux en France, et puis sans doute aussi l'exemple italien qui a, si je puis dire, beaucoup marqué les esprits en France au fur et à mesure que cette crise prenait une ampleur tout à fait inouïe.
Il y a une confiance, Jérôme Fourquet, dans la gestion de la crise?
Alors, pour l'instant, la confiance semble là. Néanmoins, il y a des lézardes très importantes. Un sondage que l'IFOP a réalisé dimanche, au moment de l'élection, indiquait que 64% des Français pensaient que le gouvernement ne leur avait pas tout dit sur cette crise. Et ce sentiment qu'on ait caché des choses a augmenté d'une vingtaine de points depuis le début de la crise. Ce sondage, il a été réalisé avant l'interview accordée par Mme Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Et donc, on peut penser que ces interrogations relayées à la suite de cette interview, ce qu'un certain nombre de responsables médicaux, des syndicats de médecins, ont annoncé sur le fait qu'ils n'étaient pas équipés en masques, que les décisions avaient tardé à être prises, tout ça peut alimenter un fond de défiance. Pour autant, les Français, pour l'instant, ils sont encore en état de sidération, en état de choc, et ils se rangent à l'avis des autorités, mais sans doute que le temps de la critique et du questionnement viendra dans une deuxième étape.
Nathalie Saint-Cricq, on voit bien que la communication, elle est compliquée. Hein. Au début, c'était « il faut rassurer, on peut vivre normalement », et puis finalement, il a fallu dire aux Français que la situation était grave. On a un ministre de l'économie qui a dit « il ne faut pas aller travailler, il y aura du chômage partiel », et qui aujourd'hui dit… Ben, y en a quand même certains qui doivent aller travailler. C'est un exercice, évidemment, inédit, parce que la crise l'est et la communication politique est difficile.
Oui, il y a peut-être un peu trop de communication ou d'efforts de communication, de vouloir trop rationaliser les choses. Je prends pour exemple le fait que le chef de l'État n'ait pas utilisé le mot confinement en se disant que peut-être confinement, ça fait prison et que si prison, c'est anxiogène et que je sais pas quoi. Et qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait du jogging? Parce que le jogging, c'est... Bon, bref, effectivement, je vais pas donner de leçons, hein, parce que franchement, personne le monde découvre des choses.
De
donc vraiment, c'est pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui parlent. C'est vrai qu'on a entendu que les masques, ça servait à rien. Et puis j'ai lu hier dans Le Monde une interview du professeur Flau, qui est épidémiologue, et qui considère que tout le monde devrait avoir le sien et tout le monde devrait sortir dans la rue. On entend des choses un petit peu contradictoires. Bon, c'est monté en puissance entre jeudi et aujourd'hui. C'est vrai que cet épisode des élections municipales où on n'a pas véritablement compris pourquoi on allait voter, je pense que les gens ont intégré au début qu'il y avait un peu de politique derrière, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait que l'opposition soit contente ou pas mécontente. Bon, là, j'ai l'impression qu'on se cale. Il y a toujours eu un petit retard. Il y a un Macron 1, un Édouard Philippe à 13h de TF1 qui dit en dessous de 100, un autre Édouard Philippe le samedi, un Macron lundi, un Castaner. Bon, maintenant, on y va. Et je pense que maintenant, les choses vont être... Alors, il y a l'épisode Buzyn, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que les gens ont vraiment compris et que finalement, ils suivent, même s'il y a effectivement ce doute, mais qui est alimenté aussi par les rumeurs. Je ne sais pas si vous avez reçu, comme tout le monde, des trucs dimanche, lundi, 45 jours, l'armée dans la rue, oui. Couvre-feu 18h. Tout le monde nous envoyait des trucs de sources officielles. Bon, il y a toujours ce genre de choses, mais je pense que maintenant, les gens ont compris qu'ils vont se caler sur quelque chose de plus raisonnable.
Le message qui était le message essentiel que voulait porter le président de la République lors de sa deuxième intervention, c'était de dire « restez chez vous », ce message-là, il est passé.
Ce message-là, il est passé. Il suffit de voir ce que disait Roland. Moi aussi, je vois, je suis sortie ce matin pour travailler. Les gens sont effectivement chez eux. Alors maintenant, il y a le paradoxe Bruno Le Maire, c'est que si effectivement, il n'y a plus de gens qui veulent aller travailler dans les supermarchés ou qui ont, par raison, peur d'y aller... Il n'y aura plus de main-d'œuvre pour pouvoir assurer le minimum. Et là, on en revient au deuxième problème, qui est les gants, les masques. C'est-à-dire, est-ce que... Mais tout ça, ça va se caler, j'imagine. D'ici une semaine, est-ce que tous les gens seront suffisamment protégés pour accepter d'aller travailler et de prendre un risque? Parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent rester chez eux. Ce qu'on peut comprendre, mais il y en a qui ne peuvent pas se permettre.
Alors, vous parlez des masques à Mélanie Gomez. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1 million de masques qui vont arriver de Chine.
Oui. Bah, c'est une bonne nouvelle surtout pour nos soignants, parce qu'en réalité, vous et moi, on n'en a pas besoin, en tout cas tant qu'on n'est pas malade. Les soignants, par contre, en manquent cruellement. Alors, dans les hôpitaux, ça va à peu près. Dans les cabinets de médecine libérale, là, c'est plus compliqué. Moi, je travaille avec un médecin qui travaille chez SOS Médecins, qui dit qu'il lui en restait 3 cette semaine, avec des patients tous les jours qu'il voit en consultation, qui toussent, qui ont de la fièvre. Alors, ça peut être des grippes, ça peut être des rhinos, mais il y a sûrement beaucoup de cas de coronavirus. Donc, les masques arrivent, c'est une très bonne nouvelle, mais vraiment, il ne faut pas que les gens croient que ce sera pour eux en population générale. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas de symptômes, pour éviter de... Si vous toussez, si vous êtes malade, oui, pour protéger à la maison quelqu'un qui est malade, de ceux qui ne sont pas malades. Mais en population générale, à l'extérieur, ça ne sert à rien de porter des masques. Il faut les laisser vraiment pour nos soignants, et y compris les pharmaciens. Aujourd'hui, c'est eux qui les ont, les masques. Ils n'en ont même pas assez pour s'équiper, eux, au comptoir. Donc, il faut laisser ces masques pour ceux qui sont en première ligne. Et ça, c'est très important que ce message passe.
C'est important que vous délivriez ce message parce que dans la rue, les rares personnes qu'on voit sortir pour aller promener leur chien, faire un footing ou que sais-je, ou faire leurs courses, ont des masques. Alors, ils les ont parfois achetés en amont, mais enfin, on en voit quand même pas mal dans la rue. Un mot quand même sur la visite du chef de l'État qui tient à apporter son soutien au personnel soignant. Il a fait une visite alors sur un modèle totalement différent de ce qu'il avait fait jusque-là.
Oui, il avait déjà été une première fois à la Pitié-Salpêtrière, mais c'est très important, hein, le président sur le terrain. Il a été à la Pitié-Salpêtrière une première fois, là je crois que c'était à l'hôpital Avicenne. En tout cas, c'est très important, les soignants ont besoin de ça. Les Français, nous aussi, il faut vraiment qu'on les soutienne. C'est très important, moi j'en parle tous les jours avec des infectiologues, des médecins, des gynécologues.
Ça compte pour eux, c'est important
parce que vous nous dites. Ils en ont énormément besoin. Hier, sur la radio pour laquelle je travaille, Europe 1, des auditeurs appelaient pour chanter des chansons qu'ils ont inventées pour les soignants. Moi, j'avais un médecin à côté de moi qui avait la larme à l'œil. Ils ont besoin de ça. Ils sont très fatigués. Ils font des heures supplémentaires. Ils comptent plus leurs heures. Certains n'ont pas vu leur famille depuis longtemps en restant dans les hôpitaux. Enfin, il faut vraiment que, au-delà du président, que nous tous, les Français, on soutienne tous ces soignants, quelle que soit leur place, hein, les infirmières, les pharmaciens, encore une fois, les médecins libéraux, les hospitaliers, ils ont besoin de notre soutien.
Et il y a des initiatives qui sont lancées, hein, sur les réseaux sociaux, de les applaudir et d'aller à la fenêtre pour les applaudir le soir, certains à 19h, d'autres à 20h, en tout cas de les applaudir. Juste un mot encore avec vous, Mélanie Gomez, sur la façon dont sont reçus les messages présidentiels, ceux du Premier ministre, par les médecins que vous avez pu avoir en ligne. Là, eux, de leur côté, ils estiment que le message est passé, pardon d'insister là-dessus, mais on a beaucoup dit que le président n'avait pas parlé de confinement, on a beaucoup dit qu'il y avait eu un peu des allers et retours. Est-ce que maintenant, à leurs yeux, en tout cas, le message est considéré comme parfaitement clair?
Oui, je pense que là, ça y est, le message est passé clairement. Après la première allocution, c'était peut-être pas encore tout à fait compris. C'est vrai que la dernière allocution, moi, j'aurais aimé qu'il prononce le mot lui-même de confinement. Ça aurait été peut-être encore un peu plus rapide. Il faut aller très vite, hein, vraiment. Mais heureusement, derrière, le ministre de la Santé a parlé, lui, de confinement. Donc maintenant, c'est très clair. Je pense que les gens ont compris, la seule chose à faire, c'est de rester chez soi le plus possible, ne sortir que si c'est absolument nécessaire. Aller faire des courses tous les jours, ça sert à rien, allez-y. Il n'est pas question de faire des stocks, mais allez-y pour 3-4 jours. Soyez tranquilles, sortez le moins possible. On est confinés, on est tous confinés. On est en guerre contre un virus, on n'y a pas des bombes au-dessus de notre tête. Donc il faut rester confinés et profiter des uns et des autres autour de nous. Ce sont des moments aussi privilégiés pour ça, il faut y penser.
Avant d'aller au premier reportage, un mot sur le point sur l'épidémie en France. Le nombre de cas continue à progresser, en particulier le nombre de cas graves.
Oui, et puis c'est pas fini, hein. Dans les 15 jours prochains au moins, ça va toujours augmenter. On sait que à ce stade, l'évolution de l'épidémie, pour l'instant, on n'a pas ralenti. Les mesures de confinement, elles sont vraiment en effet là, présentes depuis 2 jours. On sait que pendant les 15 jours, ça va encore augmenter, un doublement du nombre de cas tous les 2-3 jours. Donc ça va encore être le cas pendant au moins 15 jours.
Doublement de cas tous les 2-3 jours, vous nous disiez à l'instant. Alors, l'armée a donc été mise à contribution, comme l'avait dit le chef de l'État. Ça s'est passé aujourd'hui avec l'évacuation de 6 malades du Haut-Rhin vers les hôpitaux militaires du sud de la France. C'est la première fois que des appareils réservés aux blessés de guerre sont utilisés en France pour des civils. Pendant ce temps-là, partout en France, s'installe le silence. Juliette Perrault, Christophe Roquet.
Dans les rues de Lille, de Lyon, de Paris, le silence et le chant des oiseaux. La France est entrée dans son deuxième jour de confinement. Et si certains en prennent leur parti...
Bah c'est plutôt agréable. Paris vide, c'est joli. Hein.
Pour d'autres, le temps risque d'être long.
Donc là, il faudrait que je me mette en un petit emploi du temps et faire des choses, toutes celles qu'on laisse de côté, qu'il faudrait faire. Genre ranger les photos. Voilà, ça fait des mois que je dois ranger les photos. Donc je vais faire ça.
Et dans cette France qui tente de s'acclimater à cette nouvelle vie, une déflagration politique. Hier, dans le journal Le Monde, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn confie ses regrets et son amertume sur la gestion de l'épidémie.
Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous.
Des propos qui passent mal du côté de l'exécutif. Édouard Philippe ne dément pas, mais se défend d'avoir sous-estimé le danger.
Si nous n'avions pas pris au sérieux cet événement sanitaire, croyez-moi, je n'aurais pas organisé une réunion sur la grippe à Matignon au mois de janvier. Dès le mois de janvier, nous avons pris des décisions lourdes de rapatriement d'un certain nombre de nos concitoyens et de confinement de nos concitoyens qui étaient rapatriés. Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle.
Un recadrage en règle. Pourtant, Agnès Buzyn a tenté de corriger le tir.
Toutes les mesures anticipées ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens.
Un scandale politique, alors que le gouvernement tente de faire face à la crise sanitaire qui continue de s'aggraver. Ce matin, un avion A330 de l'armée habituellement réservé aux blessés de guerre a atterri à Mulhouse pour transférer 6 patients graves vers les hôpitaux militaires de Marseille et Toulon. Ici, dans le Haut-Rhin, les unités de réanimation sont saturées. Des psychologues ont même été appelés en renfort pour le personnel hospitalier.
Pour les soignants, apparemment, c'est très très difficile. C'est pour ça que les psychologues vont essayer de venir en aide un petit peu de jour comme de nuit pour apporter un petit peu un soutien psychologique, un soutien, une écoute, de la bienveillance aux personnes qui travaillent jour comme nuit à l'hôpital.
On a besoin de chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières.
Un soutien également apporté par la population. Hier soir, les Français se sont donné rendez-vous à leurs fenêtres et sur leurs balcons pour applaudir le personnel soignant mobilisé depuis le début de la crise.
Et ces applaudissements dont Mélanie Gomez nous disait à l'instant qu'ils faisaient du bien au personnel soignant. Cette question qui nous est posée ce soir par Jean-Claude dans la Marne, l'état d'urgence sanitaire, ça change quoi ?
Eh bien, ça change, c'est un peu comme dans une période de guerre ou dans une période de terrorisme. Ça veut dire qu'on peut très vite décider de façon administrative, c'est-à-dire sans passer 3 heures, à voter une loi, de soit réquisitionner, si on a besoin de réquisitionner un certain nombre de choses dans une entreprise chez les gens, soit aggraver le confinement. C'est-à-dire que si on considère qu'un jour dans une zone, le confinement il n'est pas suffisamment confiné, on peut décider de façon très rapide ce genre de choses. On peut élargir les zones, c'est-à-dire qu'on peut durcir toute mesure si c'est dans l'intérêt du pays et en raison de la crise sanitaire. Donc ça va très vite. Chef de l'État, on fait les choses très très rapidement. Dans l'heure, ça peut être bouclé, même pas dans l'heure, dans la minute.
Et tout ça va être donc voté au Parlement. Alors Richard Ferrand, dans une interview dans Le Monde aujourd'hui, dit la démocratie doit continuer à vivre.
Oui. Alors oui, elle doit continuer. Il y a un Conseil constitutionnel, il y a une Assemblée, et je vous rappelle que pendant la guerre de 14, enfin je vous rappelle, vous n'y étiez pas moi non plus, dans la guerre de 14, le Parlement assiégé, et il y avait tous les jours, tous les deux jours, Clémenceau hurlait en 14, en 15, en 16, en disant « c'est pas comme ça, l'évacuation des blessés, c'est pas comme ça, ça doit se passer ». Et c'est bien, ça ne veut pas dire que ça bloque l'exécutif, c'est juste la définition de la démocratie.
À vos yeux, Jérôme Fourquet, c'est important ça que dans cette période complètement inédite, où voilà, on se retrouve dans des situations qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore quelques jours, quelques semaines, qu'il y ait encore un cadre légal, un Parlement qui se prononce. À votre avis, ça, les Français, on a souvent dit en commentant, vous et moi, lorsqu'on était sur d'autres sujets, notamment politiques, on disait qu'il y a un besoin d'autorité en France, les Français réclament de l'autorité.
Alors, mais il y a le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'autorité et d'efficacité. Dans un sondage le même là, que celui que je vous indiquais tout à l'heure, 43% seulement des Français pensent, c'était dimanche, le sondage a été fait dimanche, que le gouvernement a réagi rapidement. Donc il y a une demande d'efficacité, et donc ça va souvent avec une forme d'autorité. Mais en même temps, selon la formule consacrée, si cette crise est amenée à durer, il faut, pour maintenir le consensus national, et c'est ce qu'avait très bien compris Emmanuel Macron, je pense, essayer de maintenir une unité politique et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de cacophonie politique et que l'opposition ne crie pas au dévoiement de la démocratie.
Roland Cayrol, sur cet aspect-là, oui. Ça peut paraître anecdotique pour les gens qui nous regardent, qui se demandent comment ils vont continuer à vivre de manière confinée pendant si longtemps, comment ils vont faire leur course. Et malgré tout, le président, le gouvernement tient à garder des institutions
je crois que c'est très
qui fonctionnent.
On n'est pas la Chine, on n'est pas une dictature. Il faut montrer que c'est la démocratie française, tout ensemble, qui se bat, qui fait la guerre au virus. Alors, ça sera un Parlement un peu spécial. Oui. Hein. Il va y avoir un président pour chaque groupe et 2 membres de chacun des groupes.
Pour des raisons sanitaires.
Ça va être exactement, pour qu'ils puissent respecter aussi la distance sociale dans ce grand hémicycle. Donc, dans ce grand hémicycle, ils ne seront pas nombreux. Si vous voyez des images, c'est normal. C'est fait pour protéger les députés eux-mêmes. Il y a déjà une vingtaine de députés qui sont atteints du coronavirus. Ce n'est pas la peine que ça serve à en atteindre plus. Mais c'est bien que tous les groupes politiques soient là, et leur président de groupe, avec le président de l'Assemblée, pour continuer à faire vivre. C'est aussi ça qui peut communiquer la confiance. Jérôme Fourquet nous rappelait tout à l'heure, à la fois qu'il y avait la confiance et qu'il y avait ce nombre important de Français qui disent « on nous cache sans doute des choses ». Dans toutes les périodes de crise, les gens pensent qu'on leur cache quelque chose. Et moi, je ne veux pas vous paraître trop optimiste, mais je trouve que la confiance accordée aux autorités est beaucoup plus importante que ce sentiment plus ou moins trouble qu'on a toujours, qu'on ne sait pas tout. Ce qui est quand même spectaculaire, c'est qu'aujourd'hui, la confiance dans la science, dans les soignants et dans le gouvernement pour faire face à la crise sont extrêmement majoritaires, plus des trois quarts. Rendez-vous compte, les gens, ils se sont pas mis à aimer Macron. Il y avait deux tiers des Français qui n'aimaient pas Macron, mais ils sont trois quarts à lui faire confiance. C'est très important, c'est un phénomène de rassemblement d'opinion qui est plus important aujourd'hui, on verra, mais aujourd'hui plus important que tous les doutes.
Et on va parler dans un instant justement de la déclaration d'Agnès Buzyn qui peut-être changera les choses. On le verra. Vous voulez dire un mot,
Nathalie? Oui, je trouve que ce qui est très important, c'est la transparence aussi. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas une espèce d'obscur conseil scientifique, qu'on ne sache pas ce qui se dit à l'intérieur et qu'on en ait juste Emmanuel Macron ou Édouard Philippe qui dit le conseil scientifique dit, ça va être publié, ça va être transparent, on va savoir. Donc, c'est ça.
Qu'est-ce
probablement
qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'on aura comme information?
On va avoir d'abord, on a depuis le début quand même quelque chose, il faut être honnête. On a un point tous les soirs. Du professeur Salomon, donc on avait tous les soirs, c'est quand même quelque chose qui est absolument essentiel. Deuxièmement, on saura s'il y a des choses dangereuses ou non, si le confinement est utile, s'il faut l'aggraver, si c'est suffisant, si ça baisse. On nous donnera des vraies informations qui seront validées par des scientifiques. C'est la même chose que les bulletins de santé des présidents. Dans le temps, on cachait tout, maintenant on ne peut plus rien cacher. Et probablement que pour lutter contre les rumeurs ou les choses absolument délirantes qu'on peut voir avec des gens qui savent toujours de leur beau-frère ou de leur belle-sœur des informations, là, on a accès, et avec le Parlement et ses scientifiques, on ne cachera rien aux Français, c'est ça qui est essentiel.
Mélanie Gomez, sur cet aspect-là, on voit bien que les experts, les scientifiques sont mis très en avant par l'exécutif pour justifier l'ensemble des décisions qui sont prises.
Tout à fait, hein, ce comité scientifique, c'est assez incroyable. Vous les voyez même sur les plateaux télé, à la radio, ils s'expriment. On n'attend pas juste le président ou le Premier ministre qui disent « le comité scientifique nous a dit ça ». Ces gens-là, ils s'expriment, ils parlent. Hier, il y avait une conférence de presse en ligne Facebook. Enfin, on pouvait faire ça en ligne parce qu'on ne va plus les voir maintenant, nous non plus évidemment, mais ils se sont tous exprimés, on nous a expliqué même comment ils envisageaient les choses. Ils disent aujourd'hui on prévoit 15 jours pour l'instant de confinement, mais peut-être que ça sera plus long. Ils ont été très clairs, ils ont dit on étudie la façon aussi dont on lèvera la cloche, parce que ce moment-là il va être fondamental. Il n'est pas question dans 15 jours de dire on libère tout le monde, ça y est, retournez à vos activités, parce qu'on sait aussi que ça peut être une repoussée de l'épidémie, une remontée de l'épidémie, donc sûrement que ça sera plus long, mais ils nous cachent rien, ils nous disent tout. On a les chercheurs de l'Institut Pasteur qui parlent tout le temps, nous on reçoit des communiqués de presse de Pasteur avec des fake news à décortiquer justement. Alors, moi vraiment je sens la plus grande transparence du point de vue des chercheurs et du monde scientifique.
Alors, on en vient au sujet du jour, qui est un sujet politique, puisque l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a donc accordé une forme d'interview au journal Le Monde, dans lequel elle explique qu'on aurait dû tout arrêter, c'est une mascarade. Elle a pris ses distances avec ce qui a été fait au moment des municipales. Nathalie Saint-Cricq, dans un moment où le gouvernement doit rassurer, doit convaincre qu'il gère bien, met en place une stratégie, c'est compliqué.
C'est pas compliqué, c'est une catastrophe. Et puis c'est pas bien du tout. C'est-à-dire, on peut très bien comprendre. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'elle dit, mais imaginons que ce soit vrai. Elle envisage avant tout le monde, ou elle dit avant tout le monde, elle voit quelque chose. Elle alerte l'exécutif. Elle hurle normalement, et si on ne l'écoute pas, elle hurle deux fois plus. Après ça, elle est aux affaires. Elle est au ministre de la Santé. En gros, on la débarque sur la campagne de Benjamin Griffo. Elle considère que son boulot, c'est de rester au ministère de la Santé parce qu'elle l'a lancé. Elle doit re-hurler à ce moment-là en disant « il est hors de question et si vous m'obligez à ça, je parle ». Et après avoir hurlé deux fois ce qu'elle n'a pas fait, elle doit se taire. Parce que tout ça, ce n'est pas le moment de le dire maintenant. On verra, il y a une mission d'information au Parlement. On tirera les conclusions de toute cette histoire. On verra si on a tardé, si on n'a pas tardé. Mais je veux dire, ce n'est pas le moment. C'est juste se taire. Alors, quelles sont des angoisses personnelles? Je peux le comprendre. Je ne veux pas la mettre à mort en disant ça. Mais
je rappelle, juste pour que les choses soient bien claires, ses propos. Je savais que la vague du tsunami était devant nous le 30 janvier. J'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Donc le Premier ministre, hier, a, d'une certaine manière, validé ses propos en disant « oui, c'est vrai ». Mais nous nous sommes conformés à l'avis des scientifiques qui considéraient que c'était possible d'organiser ces élections. Roland Cayrol.
Oui, d'abord, évidemment, il y a la forme. Très clairement, Agnès Buzyn a craqué. La journaliste, ce n'est pas une interview, c'est des propos qu'ils sont repris dans un article plus général d'entretien avec elle. Et la journaliste ne nous cache pas qu'elle est en larmes, Agnès Buzyn. Donc il faut prendre aussi, je pense, ces déclarations comme quelqu'un qui est en effet en plein désarroi psychologique, personnel. On peut le comprendre après ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'il fallait publier ça? C'est une autre question qui concerne les journalistes.
Vous pensez qu'il ne fallait pas le publier, Roland Cayrol?
J'aurais beaucoup hésité avant de le faire, je peux vous dire.
Parce que le moment ne s'y prête pas?
Non, parce que ce n'est pas une condition de réception d'une interview qui est une interview. C'est, c'est aller faire parler quelqu'un en désarroi. C'est une chose un peu particulière qu'on ne fait en général pas avec les responsables politiques. Alors, il reste que ce qu'elle a dit est probablement vrai, puisque le Premier ministre confirme ces dates. La seule chose où elle exagère vraiment, c'est sur les élections, en disant « mascarade ». C'est d'ailleurs le point sur lequel, dans un communiqué, elle est revenue, en disant qu'elle regrettait ce terme. C'est vrai qu'elle s'est elle-même, à ce moment-là, prêtée à la mascarade,
puisqu'elle était
tête de liste dans la capitale. Donc ça, c'est absurde. Cela dit, il faut voir aussi que le président de la République lui-même était favorable à annuler ce premier tour d'élection. Et que c'est sur la pression, notamment de ses oppositions, qui s'est dit « je vais passer pour un dictateur si je fais tout seul ». Si je prends tout seul une mesure comme ça, bon, au fond, tout ça porte quand même sur des choses qui sont passées. Ça s'est passé, on a franchi ces étapes, on est maintenant dans une autre étape. La dernière intervention du président à la télévision illustre le fait qu'on est entré dans une autre étape. Moi, je trouve que c'est trop facile maintenant pour les hommes politiques ou les femmes politiques de dire maintenant... pas de polémique, le temps n'est pas à la polémique, et de se servir de cette histoire Buzyn pour rallumer de la polémique.
Et on le verra dans un instant, parce qu'on verra les réactions politiques.
On a remis les élections municipales, mettons, au 21 juin. On verra à ce moment-là quelle sera la polémique rétrospective.
La polémique porte peut-être sur les élections municipales, mais davantage sur le retard à l'allumage que certains, y compris spécialistes du monde médical que nous avons reçus sur ce plateau, ont considéré que dès le début, on n'avait peut-être pas pris suffisamment au sérieux cette épidémie, malgré les exemples notamment chinois et italiens. Je voudrais avoir votre avis à vous, Mélanie Gomez, qui connaissait bien Agnès Buzyn, puisque vous l'avez suivie en tant que journaliste spécialiste des questions de santé. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'elle a dit et la façon dont elle l'a confié.
Ce qu'elle a dit, qu'elle regrette ou qu'elle ne regrette pas, moi je ne rentrerai pas du tout effectivement dans le côté politique, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je ne vois pas comment elle n'a pas pu... Je suis persuadée qu'elle était effectivement inquiète et qu'elle a fait ce qu'elle a dit. Agnès Buzyn, il ne faut pas oublier que c'est une médecin, elle a été, c'est une hématologue éminente qui a été vraiment, du point de vue médical, elle est très reconnue, elle est très respectée dans la profession, elle a été à la tête... Les crises sanitaires, ce n'est pas la première fois qu'elle a en géré, hein. Elle a quand même dû gérer Fukushima à l'époque, elle était donc patronne du centre de sûreté nucléaire, elle a été patronne du centre de l'Institut National du Cancer, elle a géré en tant que ministre de la Santé aussi une ou deux canicules, si je ne me trompe pas, et plutôt même très bien gérée. Donc moi, je suis convaincue effectivement qu'elle a dû prévenir les autorités en question, le gouvernement, et après savoir si elle a fait des choses à temps ou pas, effectivement, le temps des règlements de compte viendra, ça c'est certain, mais là, vraiment, ce n'est pas du tout l'urgence aujourd'hui. L'urgence aujourd'hui, c'est que chacun reste chez soi, encore une fois, je le répète.
Jérôme Fourquet, votre sentiment sur cette déclaration? On a commencé cette émission en parlant parfois d'une forme de défiance des Français vis-à-vis des informations qu'on leur communiquait, etc. Est-ce que ça peut être porté au débit du gouvernement dans cette gestion de crise, à votre avis?
Ben, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le plateau, hein, c'est-à-dire que ça tombe au moins bon moment. Il y a besoin d'unité nationale, il y a besoin que tout le monde aille dans le même sens, et là ça crée du larcène, du dissensus. On parle beaucoup des politiques, mais il faut rappeler, vous l'avez mentionné dans le reportage, que on avait aussi à l'époque des voix dissonantes au sein des experts et du corps médical, et c'est ça aussi qui a pu peut-être rendre perplexe une partie de nos concitoyens, avec en plus la première allocution présidentielle qui, dans le même temps, ferme les écoles et fait se tenir des élections dans ces mêmes écoles quelques jours avant. Donc ça a pu créer, encore une fois, un peu de trouble. Et même si les Français sont un peu comme au lendemain des attentats du Bataclan ou après le 11 septembre, dans un état de choc et de sidération, quand ils voient le pays complètement à l'arrêt, quand ils prennent conscience de l'ampleur de cette épidémie et des victimes qu'elle va causer. Et donc, pour l'instant, le cerveau est un peu sur pause et tout le monde essaye un petit peu de faire face et de reprendre ses esprits. Et donc, effectivement, le temps de la critique viendra sans doute plus tard.
Il n'y a pas de colère dans le pays ?
Pour l'instant, il n'y a pas de colère. Et comme disait Roland Kayrol, on parle souvent d'un peuple un peu frondeur qui est assez réfractaire au règlement. Partout en France, pour l'instant, sauf exception, le confinement est respecté, les différents corps de métier jouent leur jeu, et donc l'unité nationale tient, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement dommageable que des polémiques de ce type viennent fragiliser l'ensemble d'un édifice qui pour l'instant, tient bien.
Roland Kayrol, l'unité nationale, à chaque fois qu'il y a des épreuves dans ce pays, on se tourne vers la classe politique et toujours si véhémente, si, en se disant c'est formidable, il y a une forme d'unité nationale. On va dans un instant aller voir les réactions politiques sur la petite phrase d'Agnès Buzyn. On va voir qu'il n'y a pas que des gens qui sont bienveillants à l'endroit de ce gouvernement.
Oui, moi j'avais été frappé dans les discours de Macron par le fait qu'il reprenait les grands mots de notre histoire nationale. L'union sacrée de Clémenceau, la France unie de François Mitterrand, l'union nationale de toujours. Et je crois qu'il faut jouer sur ce registre parce que c'est quelque chose à quoi les Français sont très sensibles. Ils le sont en période de crise et ils le sont toujours. C'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. J'avais d'ailleurs trouvé personnellement que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon avaient, dans leurs dernières interventions, respecté cette espèce de trêve républicaine. Mélenchon particulièrement, dans les trois dernières interventions avant cette semaine, a été extrêmement responsable, appelant à la discipline, à respecter l'autorité, les consignes. Mmh. Là, cette histoire Buzyn a montré que ça pouvait un tout petit peu faire trembler cette volonté de respecter la discipline républicaine. Je le regrette, je pense que ça ne sera qu'un moment.
Eh bien, ce qu'on va voir va vous donner raison. Une affaire d'État, un scandale sanitaire majeur, des propos consternant. Malgré l'heure grave et l'Union nationale, les aveux d'Agnès Buzyn ont eu l'effet d'une déflagration dans la classe politique. Les réactions avec Camille Bellando et Michel Bouilly.
Eh bien, je pense que si ces propos reflètent la vérité, alors il s'agit d'un très grave scandale d'État et que Madame Buzyn sera probablement amenée à donner des explications à la Cour de justice.
Ils n'ont rien fait pour anticiper la récupération, du moins l'appropriation par l'État des stocks de production de masques, pour commander des masques, du gel hydroalcoolique. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement grave, et je crois que la crise sanitaire pourrait se doubler d'un scandale politique.
Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. Il est impossible de laisser passer sans rien relever. Il faut d'abord pouvoir vérifier si ce qu'elle dit est vrai. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Pourquoi raconte-t-elle cette histoire maintenant quand il est trop tard? Se rend-elle compte qu'elle engage sa responsabilité pénale et celle des autres personnes qu'elle dit avoir prévenues?
C'est une affaire d'État, incontestablement. Moi, je ne compte plus autour de moi, dans les listes de ma circonscription, des gens qui sont malades et qui sont malades d'avoir continué la campagne et d'avoir tenu les bureaux de vote.
Je ne veux pas rentrer dans une polémique maintenant. Je sais très bien que nous avons besoin d'unité pour avancer. Le moment du bilan viendra et à ce moment-là, il faudra se poser des questions parce que ce qu'elle a dit est extrêmement grave.
Le moment, ça n'est pas la polémique, très franchement. Je pense qu'on arrive sur la vague. Le pic sera là dans quelques jours ou quelques semaines. Il y aura des morts et je crois que, franchement, le moment n'est pas à celui-là. Je ne veux pas, moi, polémiquer. Il viendra le moment.
Il viendra le moment. Cette question qui nous est posée ce soir, si le gouvernement avait annoncé fin juin le report des élections, l'opposition n'aurait-elle pas crié au scandale? C'est Éric de Paris qui pose cette question.
Elle a crié au scandale, c'est-à-dire qu'effectivement, jeudi à 18h, où à 17h30, il était question de reporter les élections. Et tout le monde a crié. Les socialistes ont crié. Les républicains ont crié. Gérard Larcher a crié. François Baron a crié. Édouard Philippe n'était pas chaud non plus. Donc Emmanuel Macron s'est retrouvé à peu près tout seul à vouloir reporter ses élections en se disant ce que disait Roland tout à l'heure. On va encore dire que je suis un tyran, que c'est de la verticalité, que je respecte pas les élections, que je suis un dictateur. Et il s'est dit, en ce moment-là, on a besoin d'unité nationale. Donc je ne le fais pas, voilà. Mais ils auraient crié, alors maintenant ils ont beau jeu de critiquer ou de dire autre chose, mais c'est, ils ont fait pression.
Est-ce qu'on a le droit en ce moment, quand on est par exemple, on en parlait avec Mélanie Gomez tout à l'heure, médecin libéral, de dire c'est pas normal, il n'y a pas suffisamment de masques. Est-ce qu'on a le droit, quand on est personnel hospitalier, d'exprimer une forme de colère parce que les choses n'ont pas été suffisamment anticipées? Mélanie Gomez, comment est-ce que, est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas de colère dans le pays, et tant mieux, hein, tant mieux, parce que pour l'instant il y a une sorte de consensus sur l'idée qu'il faut serrer les coudes, mais est-ce que du côté du monde médical, on l'exprime, cet agacement, cette colère, cette impatience peut-être?
Ben, ils le font, ils ont le droit et ils le font. On a entendu beaucoup de médecins qui se sont plaints effectivement de ne pas être équipés, ni de masques, ni de lunettes, ni de surblouses, parce qu'on parle que des masques, mais le matériel de protection, notamment à l'hôpital, il est plus important qu'un simple masque. Aujourd'hui, des patients coronavirus, il y en a partout, quasiment. Il y a des zones évidemment plus touchées que d'autres, dans le Grand Est ou en Île-de-France, mais ils circulent à peu près dans toute la France. C'est pour ça qu'on est en stade 3. Ils se sont plaints, ils ont raison, je crois qu'ils ont quand même été entendus. Les masques FFP2, vous savez, ceux qui sont le plus filtrants, plus que les masques chirurgicaux, ça y est, ils sont arrivés a priori dans les officines. Alors ils vont être dispatchés, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Il y a les Chinois qui nous en ont envoyé aussi, donc il y en aura plus. Mais ils ont eu raison de s'exprimer et je crois qu'ils ont été entendus et les choses se mettent en place. On apprend, hein, la situation sanitaire, elle est vraiment inédite en France. Hein. Hier, M. Delfrécy, qui est dans le président du comité scientifique, disait il n'a jamais vu ça. Il a pris des épidémies, des crises sanitaires, il en a connu. Il a connu l'épidémie du sida. En France, on n'a jamais vécu ça. Donc, les médecins râlent, on les écoute, on s'adapte. Nous, on est confinés. Les choses, voilà, elles vont au jour le jour. On essaie tout de faire au mieux.
Avec un nouveau débat, en tout cas un nouveau sujet qui va devoir être traité aussi par la parole politique, la priorisation dans les hôpitaux. Il y a un texte qui a été remis mardi à la Direction générale de la Santé qui doit guider les médecins, alors que je rappelle, le nombre de cas double toutes les 72 heures. Mélanie Gomez, là-dessus, là aussi, c'est totalement inédit. On va devoir assumer, quand on est un personnel médical, quand on est un médecin en charge d'un service, de dire... Eh ben, il y a des règles désormais de priorisation des patients. On n'a jamais accepté collectivement de dire ça.
C'est inacceptable d'entendre ça pour tout le monde. Évidemment, on n'a pas envie demain que notre grand-père ou notre mari qui a eu un infarctus ou qui est hypertendu soit pas choisi pour être celui qui sera soigné ou intubé parce qu'on manque de matériel. Ou bien sûr, c'est inacceptable à entendre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai encore eu des médecins aujourd'hui qui étaient soit dans l'Est, soit en Île-de-France. On n'en est pas encore là. Effectivement, on est obligé de se préparer à cette éventualité. Il faudra choisir qui on soigne, qui on ne soigne pas. On espère bien sûr qu'on n'y arrivera pas. Et ce confinement, il sert aussi à ça, à ce que la vague, elle soit moins violente pour l'hôpital, qu'on soit capable de soigner tout le monde. Aujourd'hui, il y a encore de la place dans les services de réanimation, de moins en moins dans certaines zones. Hein, mais voilà, il faut vraiment être tous, on est tous les soldats de cette guerre, c'est clair. Et effectivement, c'est inacceptable d'entendre ça, mais ça fait partie des choses. Vous voyez, on n'est pas préparé, mais quand même, on s'y prépare. Ouais. Il y a des textes qui sont faits, tous les médecins qui réfléchissent à l'éthique font des recommandations. On s'y prépare et là, pour le coup, peut-être qu'on aura effectivement des choix à faire. Malheureusement, on n'a pas envie d'en arriver là, mais c'est préparé en tout cas.
Jérôme Fourquet, on est loin des questions habituelles posées par les instituts de sondage sur les sujets de préoccupation quand on en est à dire on va trier les malades dans les hôpitaux.
Et ce que disait Roland Cayrol, le président de la République a employé 6 fois le mot « guerre » dans sa dernière allocution. On est parallèle littéraire, vraiment dans une situation de guerre où... C'est la médecine de guerre qui fait des centres de tri entre les blessés qu'on va pouvoir sauver et les autres. Et on voit très clairement qu'avec les informations qui circulent sur ce protocole qui serait mis en place sur l'état d'embolie ou de très forte surcharge dans les urgences, avec tout cela, les Français prennent conscience, sans doute collectivement, de l'ampleur du problème. Vous savez qu'il y a quelques semaines encore, beaucoup de Français... considéraient ou pensaient que c'était juste qu'une grosse grippe, cette affaire de coronavirus. Et aujourd'hui, on parle, personne ne connaissait en France le nombre de place en réanimation qu'il existait. Et donc aujourd'hui, on est bien dans une situation de guerre où il va falloir faire le tri, il va falloir prioriser les urgences. Et bien évidemment, tout cela a un impact très important sur la psychologie et les mentalités collectives, où à côté des discours présidentiels, ce type d'information nous fait rentrer très clairement dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère de mobilisation totale.
Alors, mobilisation totale avec quand même des chiffres qu'il faut relativiser. Je parle sous votre contrôle, hein, Mélanie Gomez, 699 personnes dans un état grave, 7 730 cas testés. On parle toujours de la Grand Est, du Grand Est comme la région la plus touchée, avec un chiffre quand même, 11 000 lits de réanimation qui ont été dégagés quand on fait le total entre ceux qui existaient déjà, ceux de l'armée et ceux des cliniques privées.
Tout à fait, oui, des lits de réanimation, on en a mis vraiment de plus en plus à disposition dans des services qui ne servent même pas à ça. Hier, je parlais avec le chef, enfin, le service de la réanimation de Lariboisière, normalement, qui s'occupe des intoxications. Il dit qu'aujourd'hui, il a 15 lits qui sont prêts, alors qui sont déjà en partie pris pour des patients coronavirus. Dans les hôpitaux, ils s'organisent, hein, les patients, les chefs d'établissement. Des lits, on en met à disposition plus, effectivement, et c'est très important, mais on voit bien que tout le monde se mobilise et que les lits seront, on l'espère, suffisants pour ce qui nous attend dans les semaines à venir.
Avec un homme qui est au-devant, en première ligne, sur la gestion de cette crise qu'on a appris à connaître, Mélanie Gomez, vous l'avez sans doute très souvent en contact, c'est Jérôme Salomon.
Ah oui, bon, je dois dire que je l'adore.
Bon, bah, c'est dit, c'est une déclaration. Un peu d'amour en ce moment, ça fait du bien.
En fait, c'est quelqu'un comme nous, les journalistes santé, on connaît depuis longtemps. Il a souvent été en arrière-plan. On voyait plutôt les ministres, enfin, en tout cas, les cousins sur le devant. Lui était plutôt derrière. Alors nous, on l'a beaucoup connu pendant la période de la canicule. C'est lui qui nous faisait les points tous les jours pour savoir où on en était des décès. Donc c'est quelqu'un qui est très pédagogue, je trouve, et qu'on a plaisir, effectivement, je pense, à avoir les Français, même qui n'avaient pas l'habitude, parce qu'on comprend tout ce qu'il nous explique. Il est tout à fait transparent. Et puis, il nous donne les chiffres de Santé publique France, qui est très, très mobilisé aussi. Là, on a reçu aujourd'hui un mail avec le dernier bulletin de la grippe. Donc, il nous dit où on en est encore de la grippe qui commence, effectivement, à se terminer en France. Il nous dit maintenant la mise en place de la surveillance du coronavirus va vraiment s'accentuer. On va avoir des bulletins plus précis encore sur les cas en réanimation, les cas, les décès. Et Jérôme Salomon est là aussi tous les soirs pour nous expliquer tout ça de la façon la plus claire possible.
Est-ce qu'il vous donne des projections ? On est tous d'accord pour se confiner, changer nos habitudes, si tant est que ça marche. Alors, on a vu visiblement les premières informations qui nous viennent d'Italie, du cœur, hein, de là où est parti le virus, à Codogno, après 3 semaines de confinement, ça va mieux. Est-ce que Jérôme Salomon, on n'en est pas encore, hein, donné des bonnes nouvelles, des issues, mais est-ce qu'il communique sur des perspectives ?
Non, là-dessus, pour l'instant, on n'a pas de perspective. J'ai eu un virologue du comité scientifique encore aujourd'hui qui dit « Oh là là, on est incapable de vous dire ce qui va se passer. Il va vraiment falloir attendre au moins 15 jours pour avoir une idée du scénario, 15 jours pour avoir une petite idée de la tendance. Est-ce qu'on est sur un plateau ? Est-ce que ça commence déjà à diminuer ? Le nombre de nouvelles contaminations ? C'est très, très difficile de faire des projections aujourd'hui pour quelque expert que ce soit, je crois, vraiment. »
Là aussi, c'est un message politique qui est difficile à remettre dans l'ordre. On a eu un président qui nous a dit dès le début « ça va durer très longtemps, ça va durer des semaines », il a même dit « des mois ». Et aujourd'hui, on a un confinement qui est prévu, confinement, il n'a pas lâché le mot, mais enfin voilà, qui est prévu pour 15 jours.
15 jours renouvelables. Et nous le savons tous que renouvelable est aussi important que 15 jours. Mais moi, laissez-moi dire peut-être deux choses. La première, sur le fait qu'on râle contre… rien n'est prêt, quoi. C'est la première fois qu'une chose pareille nous arrive. Anticiper complètement le besoin de masques, etc., c'était tout simplement impossible. Le gouvernement fait ce qu'il peut dans la matière. Ils ont relancé la chaîne de production, ils ont interdit l'exportation des masques. On va en avoir de plus en plus. Il y a aussi des gens, je pense aux facteurs qui l'ont fait savoir, aux agents des télécoms qui n'ont pas de gants alors qu'ils vont à l'extérieur. Il y a des choses à faire, on n'a pas pu les prévoir, il faut les faire le plus vite possible. Sur ce qui va se passer, le confinement, il n'y a pas que l'exemple italien qui montre que ça peut marcher.
L'exemple chinois.
Il y a le confinement autoritaire. Du Hubei, c'est une province chinoise qui, à elle seule, fait 60 millions d'habitants. Il n'y a plus de nouveaux décès, ni même de nouveaux cas dans le Hubei depuis 3 jours. Et il y a permettez-moi de dire, seulement 3200 morts. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit dans certains journaux, certaines chaînes de télévision, que c'est des centaines de milliers de personnes qui pourraient mourir, attention, c'est des centaines de milliers de personnes qui peuvent être atteintes par le coronavirus. Mais attention, c'est pas la mort pour tous ces gens-là, Dieu merci. C'est le risque d'en avoir 3000 dans un pays de 60 millions d'habitants, ce qui est déjà très difficile à supporter. Mais c'est parce qu'il y a confinement. Le Hubei en est arrivé là parce qu'il y a confinement. Si le confinement continue à être fait, parce que la courbe française, vous pouvez la regarder, vous allez sur le site de l'université Johns Hopkins, vous avez les courbes de tous les pays. La courbe des gens infectés et des décès est exactement la même en France que celle qu'il y a en Chine, en Italie, en Iran, dans tous les pays. C'est quelque chose d'inexorable et qui suit la même courbe. Il faut donc lutter, et lutter avec nos armes. Celle du confinement donne des résultats. Il faut simplement tenir.
Et ceux qui ont choisi une autre stratégie, ce qui était le cas notamment de la Grande-Bretagne, donnent le sentiment de faire machine arrière. Donald Trump, qui avait beaucoup minimisé aujourd'hui, vient de se comparer, puisqu'on choisit ce soir d'analyser aussi les mots qui sont utilisés, de se comparer à un président en temps de guerre. Ce sont les mots qu'il a utilisés lui aussi. Il a annoncé qu'il allait recourir au Defense Production Act, qui lui confère des pouvoirs exceptionnels pour faire face à la maladie. Alors que l'Europe bataille contre l'épidémie, que le gouvernement français est questionné sur sa réactivité, certains pays font figure de modèle. C'est le cas de la Corée du Sud, de Singapour, de Taïwan. 23 millions d'habitants à Taïwan pour 77 cas répertoriés seulement. Une maîtrise de l'épidémie que l'on doit à une politique drastique. Là-bas, par exemple, les malades en quarantaine étaient sous surveillance policière. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
C'est l'un des pays qui a le mieux anticipé l'épidémie. L'île de Taïwan a mis en place 124 mesures drastiques très tôt sur son territoire, comme l'interdiction de l'arrivée de Chinois du continent ou des quarantaines ciblées début février.
Tous les gens qui ont été en Chine, à Hong Kong et à Macao, seront mis en quarantaine à la maison pendant 14 jours.
Depuis le SRAS en 2003, le territoire a développé un système de prévention d'épidémies très performant. Seulement 77 cas répertoriés sur 23 millions d'habitants. Taïwan ne fait pas partie de l'OMS et ne se prive pas de le souligner, surtout pour marquer la différence avec son voisin chinois.
Taïwan n'est pas la Chine et Taïwan n'est pas une région chinoise où sévit une épidémie. Le développement y est très différent. Taïwan ne présente pas un risque élevé d'infection.
Le gouvernement a également rationné les masques pour permettre à toute la population de s'équiper. Les prix sont encadrés, 15 centimes d'euros pièce.
Taïwan doit principalement compter sur les importations pour les masques. Nous n'en avons pas tellement. Maintenant, au moins, il y a la garantie pour les gens d'avoir deux masques par semaine. C'est mieux que rien.
Du côté de la Corée du Sud, on a choisi la stratégie du dépistage de masse. Une tactique visiblement payante. Le pays est en passe de gagner la guerre contre le virus. Plus de 250 000 tests ont été pratiqués, comme ici, en pleine rue.
Je n'ai pas à entrer en contact avec quelqu'un d'autre puisque je reste à l'intérieur de la voiture. C'est pour ça que je suis venu ici.
Le test est gratuit et pratiqué sur la base du volontariat. Résultat, au plus fort de la crise, la Corée a testé 20 000 personnes par jour. Presque 20 fois plus qu'en France, notamment grâce à ses drives.
Nous pouvons diagnostiquer beaucoup de gens dans un court laps de temps afin que nous puissions contrôler efficacement le coronavirus et puis nous pouvons minimiser l'infection. Si le premier patient est un cas confirmé, le deuxième patient pourrait être infecté même si cette personne a été testée négative parce qu'elle est restée à proximité pendant un certain temps. Cependant, si chacun d'entre eux reste dans leur voiture, alors il n'y a aucune chance d'infection.
Plus de 8400 cas ont été recensés rapidement. Les autorités ont ainsi pu retracer les foyers épidémiques et éviter leur propagation en se basant sur le bornage des téléphones ou les caméras de vidéosurveillance. Quand Big Brother est utilisé contre le Covid-19, c'est aussi le cas dans la cité-état de Singapour, une ville ultra connectée où chaque cas suspect est traqué par les nouvelles technologies. Ensuite, cette unité spéciale retrace minutieusement les parcours de chaque contaminé, qui ils ont rencontré, où et quand.
On doit expliquer très lentement, être très patient avec les personnes. Il ne faut pas se fâcher avec eux. Parce que comme vous et moi, la plupart d'entre nous ne se souviennent pas de beaucoup de choses. Notre mémoire ne travaille pas si bien. Et même s'ils intervertissent les événements, c'est aussi très bien. Il suffit de comprendre qu'ils essaient juste de vous aider dans le processus. Il ne faut pas montrer une attitude autoritaire.
Singapour compte 266 cas de malades du Covid-19 et aucun décès. 114 personnes sont maintenant guéries de la maladie.
Et pour faire suite à ce reportage et rebondir sur la situation italienne, ce chiffre, 40% des personnes en Italie sont restées chez eux. Comment est-ce qu'on a ce chiffre? Tout simplement parce que les opérateurs téléphoniques ont tracé les gens et ont pu identifier le fait qu'ils sortaient de chez eux. Ça fait écho à ce qu'on vient de voir dans ce reportage. Cette question qui nous est posée ce soir pour vous, Mélanie Gomez, Taïwan, Singapour, ces pays maîtrisent bien la situation. Comment ont-ils réussi là où nous avons échoué? C'est Yolande dans le Bas-Rhin qui nous pose cette question.
Alors, ils ont pris des mesures qui sont pas les nôtres, c'est sûr. Ils ont été peut-être plus forts, plus stricts, ça c'est certain. Après, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que quand on doit faire face à une crise sanitaire, il faut prendre en compte l'aspect sociétal de la chose. Les Taïwanais ne sont pas des Français. Nous, les Français, nous ne sommes pas des Taïwanais. Donc, les mesures qui sont passées, qui ont été acceptées par la population là-bas, n'auraient pas forcément été acceptées de la même façon ni aussi vite par les Français. Chaque pays adapte aussi ses mesures à sa société, à sa population. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'à Taïwan, en Asie, globalement, ils ont été littéralement traumatisés par le SRAS, la population. Nous, en France, on n'a pas vécu ça. Donc, face à une nouvelle pandémie arrivant, la population ne réagit pas du tout de la même manière que nous. Nous, on a eu la crise, le fiasco H1N1, qui n'a pas vraiment, semble-t-il, traumatisé la population. Et bon, ça n'a pas été effectivement ce qu'on attendait. Nous, ce que retiennent les gens, par exemple, de H1N1 ou des épidémies de grippe chaque année, c'est « Oh là là, on a voulu nous empoisonner avec des vaccins ». Donc, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes réactions face aux épidémies que les Taïwanais, semble-t-il. Maintenant, par contre, les Français ont compris, j'imagine. Et là, voilà, l'urgence est seulement au confinement. Et je crois que les Français, suffit de regarder les rues, l'ont bien compris.
Jérôme Fourquet, c'est vrai que la santé n'était pas dans les premières préoccupations des Français dans vos baromètres.
Alors, elle est assez élevée, mais c'était plus appréhendé en termes de budget alloué à l'hôpital, en termes de remboursement, le déficit de la sécurité sociale. Et comme ça a été rappelé à l'instant, on voyait monter aussi dans nos enquêtes une défiance vis-à-vis des vaccins. On peut espérer que grâce à cette crise, cette défiance vaccinale va diminuer. Mais pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut effectivement prendre en compte la dimension sociétale. Et ça a bien été rappelé par les spécialistes qui ont conseillé l'exécutif. Pour faire accepter un certain nombre de mesures drastiques, il a fallu passer par tout un travail de préparation de l'opinion sur l'ampleur du défi, l'ampleur de la menace. Et tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors on peut toujours reprocher d'être allé insuffisamment vite, mais c'est aussi, on le voit, des sociétés qui ne partaient pas du même point en termes de culture du risque et de culture sanitaire.
Et d'ailleurs, dans le conseil scientifique dont on parlait tout à l'heure, il y a des experts des sciences sociales qui analysent l'acceptabilité des Français.
Absolument, qui font. C'est totalement essentiel ce qu'a dit Mélanie, parce que Singapour, on sait que c'est un État extrêmement policier. C'est-à-dire qu'en gros, si vous volez une voiture, vous avez la peine de mort. Taïwan, non. Mais il y a une forme de discipline, donc c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui ont étudié d'abord les passés des épidémies, parce que nous, on n'a plus la mémoire des épidémies, Dieu merci, parce que la dernière, ça devait être la grippe espagnole en 18. Mais on a besoin de voir le seuil de tolérance, parce qu'il faut que les gens... Alors, ou on leur fait très peur, et dans ce cas-là, on peut dire que c'est anxiogène, ou on leur fait passer peur et ils ne font rien. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, que les Français sont un peu longs à la détente, quelquefois, mais que quand on leur explique les choses, ils le font. Donc, totalement nécessaire d'avoir l'aspect psychologique, et on aura besoin de l'aspect psychologique aussi après, parce qu'il y a des gens qui vont... Le corps médical sont des humains, ce sont peut-être des gens qui ont des grands-parents ou des parents qui sont seuls, qui ne voient plus personne. Chacun de nous va commencer à avoir quelqu'un dans sa famille ou un proche qui peut-être va souffrir de cela. Je ne veux pas du tout faire peur, mais je pense que l'aspect psychologique et d'accompagnement des gens dans une période de crise est quelque chose d'absolument essentiel.
Il faut prendre en compte ça, Roland Kayrol, quand on est aux responsabilités, quand on est président de la République, Premier ministre ou Jérôme Salomon. Prendre en compte ce que le pays est capable d'entendre et ce qu'il n'est pas prêt à entendre.
Oui, encore Jérôme Salomon, ça va. Il nous fait le point tous les jours avec détail. Il n'a pas entré dans la polémique, dans ce qui peut faire peur. Il donne les faits.
Oui, ça peut faire peur, les faits.
Mais les faits, déjà, font peur. Et donc forcément, quand ils sont maniés après par des autorités nationales, chaque fois qu'on veut rassurer, on fait peur. Et chaque fois qu'on dit attention, c'est sérieux, on se dit ah bon, ouais. Ça n'est que ça. Il y a, on est fait comme ça, voilà. Et de la même façon, on a commencé par essayer de faire ce qu'on a fait à Taïwan. Rappelez-vous, on cherchait le patient zéro dans chaque zone pour trouver le 1 puis le 2. Il arrive un moment où c'est trop d'efforts pour, et on n'y arrive pas, il y a trop de cas et il faut passer à une autre mesure. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que ce que nous avons essayé, qui a donné des résultats dans la première phase, dans les phases 1 et 2, était devenu insuffisant par rapport à la pente de la courbe. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'autres mesures que celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de réticence franco-française. Il n'y a pas de pays aussi fortement têtu et réticent à l'égard du pouvoir et de la parole publique en général. Ouais. Je n'en vois pas de plus important que nous en la matière.
Juste quelques infos de la journée avant de passer à vos questions. Un navire hôpital va être envoyé à New York. Nous, on a des hôpitaux de campagne. Là, c'est un navire hôpital et l'Allemagne va transformer des hôtels et de grandes halls en hôpitaux. Chacun essaie de combler les manques de son système de santé. Juste une dernière question, Mélanie Gomez. En réalité, quand on fait deux pas en arrière et qu'on regarde ce que font les autres pays européens, on apprend à l'instant, par exemple, que Boris Johnson vient de fermer finalement lui aussi les écoles, les universités, les crèches, on fait presque tous la même chose.
C'est ce que j'allais vous dire, effectivement, hein, petit à petit, avec des temps différents, à quelques jours de décalage, on en est à peu près tous au même endroit, à la même situation et aux mêmes mesures. Moi, je pense que ce confinement, il est très important, on l'a dit plusieurs fois, je vais le répéter plusieurs fois, il ne faut quand même pas oublier la solidarité malgré tout. Ça va être très important dans les jours à venir. Il ne faut pas hésiter, alors il faut rester chez vous, mais n'oubliez pas votre petite mamie âgée qui habite sur votre palier. Alors, vous allez taper chez elle, vous restez à 2 mètres, vous lui demandez si elle a besoin de quelque chose. Dans ces moments-là, il ne va pas falloir oublier les plus fragiles qui sont autour de nous. On ne s'approche pas, on ne s'embrasse pas, mais ça, c'est très important, la solidarité. Et vous allez voir, la solidarité va s'organiser de façon européenne. Enfin, c'est très important.
Et on va voir peut-être aussi de belles choses. Et vous parlez de solidarité, on l'apprend à l'instant. Paris lance un recensement des personnes fragiles et isolées. Nous revenons maintenant à vos questions. Les conditions du confinement ne peuvent être que durcies à la vue des déplacements incessants que je vois dans mon village. Claudius, il habite en Meurthe-et-Moselle.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu, ce problème des villages, des campagnes, qui sont un peu plus peuplés en ce moment parce qu'il y a plein de gens des grands centres urbains, à commencer par les Parisiens, qui sont allés se mettre au vert et que du coup, il y a du monde. Il y a plus de monde que notre système de santé ne peut en accueillir et il y a suffisamment de monde pour ne pas respecter les distances sociales. On me parle, moi, au téléphone, de barbecues dans lesquels on se côtoie, on se tape la main, on s'embrasse. Ouais. Attention, c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est, si j'ose dire, sorti de l'auberge.
Et c'est pas parce qu'on est au bon air. Enfin, je suis pas médecin, mais j'ai entendu des gens dire, au moins là-bas, on respire, il y a de l'air. Bah oui, mais si on est 15 et que les 14 autres sont contaminés, le fait qu'il y ait de l'air, ça change rien.
Mélanie Gomez.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire très attention. Moi, je ne sais pas qui sont vos amis qui vous parlent de barbecue, mais honnêtement, là, il faut quand même les remettre en place très rapidement.
C'est ce qu'il a fait.
C'est absolument pas possible, on est d'accord. On n'est pas parti à la campagne pour aller contaminer les campagnes qui étaient préservées jusque-là pour certaines. Donc vraiment, ceux qui sont partis à la campagne, le message aujourd'hui, c'est vous restez dans votre maison de campagne et vous appliquez les mêmes règles qui seront appliquées chez ici dans les grandes villes. Vous restez chez vous avec votre petit cercle familial resserré, votre femme, votre mari, vos enfants. Et vous n'allez pas faire les courses chez le boulanger, faire le barbecue à côté. C'est absolument pas possible, ça. Absolument pas possible.
Non, au barbecue. Allez, si le confinement est efficace, va-t-on le renouveler? Qu'est-ce qu'on pense de ces 15 jours?
Les scientifiques sont clairs, disent on va voir. Mélanie l'a dit, on va voir. Ça sera maintenu. Probablement, parce que de toute façon, il peut y avoir ce que nous a expliqué et Mélanie et Emmanuel Macron, il peut y avoir une deuxième vague, c'est-à-dire que ça peut s'arranger et repartir derrière. Donc je pense que là, pour le coup, le principe de précaution, enfin je pense, ce que je pense, on s'en fiche totalement. Ce que j'ai entendu, c'est que la logique, c'est de ne prendre aucun risque. Donc je ne vois pas comment ça pourrait durer simplement 15 jours.
On a échappé au couvre-feu à 18h, dans lequel beaucoup de villes italiennes ont dû accepter. On a toujours des transports. Attention, hein, il pourrait y avoir des mesures plus sévère encore.
État d'urgence sanitaire, ça
peut marcher.
Mélanie Gomez, vous êtes d'accord avec ça? Il peut encore y avoir un échelon supérieur dans le confinement.
On peut passer à l'échelonnement supérieur, c'est-à-dire que Je crois qu'en Italie, il y a même, c'est un Italien qui me racontait ça il y a quelques jours, il y a même des heures où on a le droit par quartier de faire les courses. En France, pour l'instant, c'est pas le cas. Si vous voulez sortir tout à l'heure avec votre attestation qui dit j'ai besoin d'huile d'olive, je ne sais pas, vous sortez, vous allez faire vos courses. Mais on va pas faire des courses parce qu'il manque du beurre ou il manque ci. Organisez-vous. Demain, effectivement, ça peut être des horaires par quartier pour éviter qu'il y ait trop de gens qui fassent la queue aussi, même si c'est à un mètre. Donc, on peut encore durcir les choses. Hein. Donc, soyons déjà sérieux avec ce qu'on nous propose aujourd'hui et ce qu'on nous impose aujourd'hui, c'est vrai.
Les aveux d'Agnès Buzyn suggèrent-ils que le gouvernement a trop tardé dans ses prises de décision pour limiter la propagation du coronavirus ?
C'est totalement prématuré. Je pense que c'est totalement prématuré de penser ça. Il y a effectivement le facteur.
Et littéralement, elle ne dit pas ça.
Elle ne le dit pas. Elle a dit qu'elle a alerté et Édouard Philippe répond qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des réunions.
Et qu'il y avait des réunions et qu'il y avait des avis divergents des scientifiques sur l'organisation
de la réécriture de l'histoire. Après coup, comme ça, c'est quelque chose.
Vous voyez, on sent bien à quel point ça met tout le monde dans une situation un peu embarrassante.
Je pense qu'on aura oublié dans deux jours, honnêtement. Je pense que.
Les Français, sans doute, mais est-ce qu'à un moment donné, on a vu ce qui s'est passé après la canicule, il y a eu quand même, ou après le sang contaminé, il y a eu un moment donné où les responsables politiques ont rendu
compte. Il va y avoir une mission d'information. Alors pour l'instant, on n'a qu'à la mission d'information, c'est-à-dire que le moment venu, dans le calme, sans l'excitation et sans faire de la politique politicienne, parce que c'est vraiment le dernier truc dont on est envie en ce moment, je pense qu'un certain nombre de responsables, et surtout pour en tirer des leçons pour l'avenir, c'est-à-dire pas régler des comptes, pas se dire savoir un tel, il n'a pas fait
faire mieux.
Voilà, faire mieux, parce que de toute façon, tous les médecins le disent, c'est une chose, pas ça spécifiquement, mais qui risque de nous revenir sur la figure assez régulièrement. Donc on va tirer les leçons, et c'est le propre d'une démocratie. Je ne suis pas du tout béate en me disant que c'est merveilleux, mais honnêtement, les choses
sont faites.
Ça sera dans 3 mois ou dans 6 mois, mais ça sera fait.
Si Agnès Buzyn pressentait le tsunami, pourquoi n'a-t-elle pas pris les précautions nécessaires concernant les masques ? Alors, je crois à Mélanie Gomez que dans les dernières déclarations qu'elle a faites, elle avait dit qu'elle avait anticipé la commande de masques avant de quitter le ministère. C'est ce qu'elle déclarait à l'époque.
Oui, mais vous savez, des masques, finalement, il n'y a pas qu'en France qu'on en manque. Les stocks n'étaient peut-être pas suffisants. Tout ça, ça fait partie des choses, effectivement, qui vont nous servir de leçon. Je ne sais pas du tout ce qu'a fait Agnès Buzyn quand elle était encore en poste au moment de la préparation de cette épidémie. Mais en tout cas, les choses, on va encore une fois, on va tirer les leçons et on fera différemment. Mais on n'est pas les seuls en Europe à manquer de masques.
Pourquoi la France n'a-t-elle pas mis en place plus vite un confinement ?
Parce que probablement que les scientifiques n'ont pas dit qu'il fallait le faire tout de suite et que c'est monté un petit peu gentiment et lentement de la médecine de ville, de ce qu'on a pu entendre, des gens en disant « Oh là là, peut-être que la courbe s'est affolée » et peut-être parce qu'on est tellement dans un pays où dès qu'on fait quelque chose d'un peu violent, on dit que c'est liberticide. Ça, c'est la culture dont Roland parlait tout à l'heure. On n'aime pas ça. Et puis, ce n'est pas la même chose que le terrorisme. Le terrorisme, on se bat contre quelque chose. Tandis que là, la seule façon de se battre, c'est de rester chez soi et de se laver les mains. Donc, ce n'est pas exactement dans le tempérament français. C'est une espèce de bataille passive, mais qui en est une et qui est aussi nécessaire.
On l'a d'autant plus fait à un moment que les Italiens avaient une semaine, j'allais dire, d'avance. Sur nous et qu'on voyait ce qui était inévitable.
On se moquait un peu d'eux.
Sans quoi, peut-être qu'on l'aurait fait plus tard.
Jusqu'à quelle distance peut-on s'éloigner de son domicile pour pratiquer une activité sportive ? Peut-on faire une marche de 3 km, Mélanie Gomez ?
Écoutez, 3 km, ça ne me semble pas fou. Alors essayez de le faire sur un circuit qui n'est pas trop loin de votre quartier. Il y a des policiers, effectivement, qui peuvent vous arrêter si vous vous retrouvez à l'autre bout de Paris, par exemple, par rapport à votre domicile. L'idéal, c'est faire une petite boucle à côté de chez soi. De toute façon, on a dit limiter les déplacements. Donc vous faites un footing, vous faites un peu de vélo avec votre attestation tout seul et vous essayez de tourner un petit peu dans votre quartier. N'allez pas trop loin, honnêtement. On limite les déplacements et c'est valable pour tout le monde.
Juste, je rajoute une question. Tout seul, on ne peut pas sortir faire du vélo avec ses enfants.
Alors, enfin, c'est non. Avec votre enfant, moi, mon mari est sorti tout à l'heure faire du vélo avec mon fils à distance. Mais vous n'allez pas faire du vélo avec vos voisins. On reste encore une fois dans ce cercle familial restreint.
Bon, allez, va-t-on manquer de paracétamol ou d'autres médicaments ? C'est encore une question pour vous, Mélanie Gomez, puisqu'on a appris que les ventes de paracétamol allaient être régulées d'une certaine manière.
Tout à fait. Elles sont régulées aujourd'hui. Ouais. Si vous n'avez pas de symptômes et que vous allez en pharmacie, on ne vous donnera plus qu'une boîte de 500 mg ou de 1 g de paracétamol. Si vous avez des symptômes ou quelqu'un qui est chez vous qui est malade et que vous avez une ordonnance du médecin, vous pouvez avoir jusqu'à 2 boîtes. Aujourd'hui, on n'en manque pas. Mais justement, pour éviter d'en manquer, il ne faut pas organiser la pénurie, il ne faut pas faire de stock. Et c'est pour ça qu'on régule et qu'on rationne. Et on ne manquera pas de paracétamol à ce stade. L'agence du médicament l'a dit, les stocks sont suffisants.
Le confinement de toute la population italienne a-t-elle engendré de bons résultats? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a plutôt des signes encourageants dans le nord de l'Italie. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée.